Strasbourg pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec Cécile-Ange. Lève Frankel, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous avoir pour parler avec vous de philosophie, le temps d'un interview dans le cadre de mon émission Strasbourg Pilote Arts et Lettres sur Radio Judaïca Strasbourg. Alors, vous êtes écrivain et enseignant en philosophie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi star des réseaux sociaux sous le nom de Serial Thinker. Vous êtes donc très connu des jeunes générations à travers TikTok et vous comptabilisez près de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des vidéos qui ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Celles où vous analysez en moins de 3 minutes des notions qui font aimer la philosophie à un très large public et qui ont aidé les candidats au bac. Et puis, bien sûr, il y a ce livre dont nous allons parler, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, et dont le titre est « Ma vie a-t-elle un sens ?» et autres questions philosophiques du quotidien. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques notions ? Et comment vous avez trouvé cette terre de la philosophie, cette planète où vous avez atterri et qui est votre matière première de travail, de pensée, de vie ?
Alors, aussi loin que je remonte dans mon enfance, je me pose des questions existentielles. Alors, j'ai pas tout de suite fait des études de philosophie. Je suis d'abord passé par la Yeshiva en Israël pendant 2 ans, puis où j'ai étudié le Talmud, la Gemara, et puis ensuite j'ai fait de l'expertise comptable parce que je me suis dit tiens, il fallait quand même que j'ai un métier. Voilà, après ces études. Et c'est à 24 ans que j'ai vraiment commencé, que je me suis mis à l'âge où normalement on termine ses études, après une sorte de crise existentielle, où je me suis inscrit en première année de philo et depuis je ne me suis plus arrêté. Voilà.
Alors ce livre, « Ma vie a-t-elle un sens ?» quelle est l'importance de ce sens ? Quel est le sens du mot « sens » dans votre bouche ?
Ah oui, ben en fait c'est ça justement, le mot « sens » a plusieurs sens, et il a un sens notamment qui est celui d'avoir une fonction dans l'existence, et c'est ça que j'essaye d'interroger. C'est-à-dire que dans la vie, on cherche souvent, quand on cherche le sens de sa vie, on cherche à devenir utile, on cherche à servir à quelque chose, on cherche finalement à être le moyen en vue d'une fin plus grande que soi. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, sans spoiler tout le chapitre, mais c'est que finalement, si on recherche une fonction, ça veut dire que on cherche à être enfermé dans quelque chose. On cherche à se déterminer, comme la fourmi ouvrière est une fourmi ouvrière, ou la fourmi soldat, ou comme une machine est programmée dans un algorithme. On aimerait peut-être, par angoisse de la liberté. Hein. La liberté nous angoisse parce qu'on a à faire des choix. On doit être responsable de ses choix. On doit les assumer. Et donc on est tellement angoissé par cette liberté que parfois on cherche un sens qui est une fonction, qui est une détermination. Et dans la philosophie existentialiste, notamment chez Sartre, on appelle plutôt l'individu à accepter cette angoisse, à accepter cette liberté, à accepter cette part de non-sens et assumer la liberté.
Alors le sens, ça pourrait être, vous l'avez dit, une fonction. Et si je n'aime pas, je vois autre chose, une direction, ouais, une finalité, même pas, une signification. Pour moi, personnellement, c'est la conscience que j'ai de mon être. Je ferme mes yeux, je me concentre sur ce que je sais de moi, ce que je voudrais de moi. Donc, signification, quelle est la formule de moi ? La signification.
Oui,
est-ce que vous acceptez le dérivé du mot sens qui est signification ?
Oui, on pourrait dire signification effectivement, comme on utilise dans un terme. Alors à ce moment-là, il faudrait dire, alors du coup, on est plutôt dans la sémantique, effectivement. Et je crois que En fait, le drame de l'être humain, c'est qu'il donne du sens à tout ce qu'il fait, il donne de la signification à ce qu'il fait, il donne de la signification à son travail, il donne de la signification à ses relations, d'amitié, d'amour, mais il n'en reçoit jamais de l'extérieur, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui va pouvoir justifier son existence sur Terre, même pas Dieu. Parce que finalement, si Dieu existe, alors souvent on se réfugie dans cette croyance. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en Dieu, mais ça veut dire qu'il ne faut pas espérer en tout cas que cette croyance puisse résoudre le problème du sens. Et c'est tout le problème des théologiens, c'est le problème énorme des théologiens, c'est pourquoi est-ce que Dieu, pour quel motif est-ce qu'il pourrait créer des êtres humains, puisque Dieu est parfait, donc si ici il est parfait, et omniscient et omnipotent, il n'a aucune raison de créer quelque chose en dehors de lui-même, parce qu'il est déjà parfait. Donc s'il crée quelque chose, c'est qu'il lui manque quelque chose. Et donc ce serait un sacrilège de dire qu'il manque quelque chose à Dieu, puisque Dieu est parfait. Donc même si Dieu existait, il ne pourrait pas donner un sens à notre vie. C'est ce que Sartre appelle l'angoisse d'Abraham. C'est-à-dire quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, il peut encore se dire « je ne suis pas Abraham ». Peut-être que je suis fou, peut-être que c'est le diable qui se fait passer pour Dieu. Donc ça veut dire que je ne peux jamais me libérer de ma liberté. Même si Dieu vient me parler et m'imposer quelque chose et me donner un ordre, je suis encore libre de réinterpréter cet ordre ou de croire que je suis fou ou de penser que c'est le diable qui se fait passer pour Dieu, parce que le diable se fait toujours passer pour Dieu. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Alors, on va revenir là-dessus. Donc, la question du sens interroge notre identité, notre existence en tant qu'individu. Serions-nous une fonction sociale et désignés comme membres d'un collectif politique, religieux? Et si nous n'étions qu'un membre de communauté, qu'elle soit politique, religieuse, et si nous n'appartenions à aucun corps de métier, qu'est-ce qui exprimerait notre existence et nous permettrait d'échapper du désespoir de n'avoir pas de qualificatif vers le chemin résilient de la créativité? C'est-à-dire que la créativité, c'est une sorte de ciel qui nous permettrait d'exister par rapport à ce concept de ce que serait mon individu hors toute fonction.
Effectivement, cette question de la créativité est centrale et c'est là-dessus que je termine le chapitre. Parce que finalement, d'une certaine manière, une fois qu'on a accepté le fait que rien ne pourrait nous déterminer dans une fonction, rien ne pourrait m'enfermer dans un rôle, dans une fonction sociale, dans une utilité. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup l'expression « tu sers à rien » comme une insulte. Mais en réalité, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Si tu ne sers à rien, ça veut dire que tu n'es le moyen d'aucune fin, ça veut dire que tu es une fin en soi. Mmh. Et donc, une fois qu'on a accepté ça, je crois qu'on est libéré finalement, on accepte sa liberté, et à ce moment-là, on peut s'engager dans une vie créative, singulière, originale, pas forcément en devenant un artiste, tout le monde n'est pas capable de devenir un artiste, tout le monde n'a pas le talent, tout le monde n'a pas cette volonté-là. Mais on peut s'engager dans une vie créative, même en dehors de l'expérience artistique. Ça peut être, quel que soit le domaine, ça peut être dans un engagement humaniste, ça peut être dans nos relations sociales, dans nos relations familiales. Mais en tout cas, essayer de dévier un peu de la norme, d'une certaine manière. Et cette déviation de la norme, c'est ça qui rend la vie intéressante. Si on reste finalement enfermé dans des rails, la vie, finalement, ok, c'est une vie qui a l'illusion du sens, qui a l'illusion de nous faire croire qu'on remplit une fonction, mais en réalité, c'est une vie extrêmement triste, pauvre et assez peu créative.
Alors, si on optait pour la créativité et l'art, il s'agit de vivre sur cette terre, d'avoir des sous, de se nourrir. L'art est aussi pris par des marchands pour être commercialisé, nous permettre à nous, l'artiste, de vivre. Et aussi, automatiquement, c'est tout un champ, un public qui est asservi par les commerçants. L'art est commercialisé, l'écriture vendue dans les livres, dirigé pour être reconnu vers des salons du livre. Il y a aussi un servage, il y a les rencontres littéraires. Où est la liberté là-dedans? On ne peut pas, ou on vit d'art et d'eau fraîche, ou bien si on veut continuer de vivre de façon digne de soi, eh bien voilà. Ça devient de nouveau une fonction, un servage et point de suspension.
C'est vrai. Alors, je crois que affirmer qu'il faut vivre une vie singulière, créative, en dehors d'un sens déterminé, ça n'est pas vivre en dehors de la société. C'est simplement, on peut tout à fait, l'existentialisme ne dit pas qu'il ne faudrait pas avoir une fonction maternelle, paternelle, ou une fonction sociale, professionnelle. On peut vouloir se sentir utile, mais c'est finalement affirmer qu'en dernière instance, quelle que soit la fonction qu'on va occuper au sein de la société, ça ne nous donnera jamais véritablement un sens parce que c'est toujours une fonction qu'on s'est choisie librement. D'une certaine manière, ça vient interdire la possibilité d'avoir, de totaliser le sens de sa vie. Je m'explique. Je peux penser, par exemple, que avoir des enfants, c'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir. Mais si je crois qu'avoir des enfants, ça va donner un sens à mon existence, alors là, je crois qu'on s'enferme dans quelque chose. D'abord, d'un point de vue logique, ça n'a pas de sens. Parce que si je dis que le sens de ma vie, c'est d'avoir un enfant, quel est le sens de la vie de mon enfant? Et lui-même d'avoir des enfants, c'est une fuite en avant qui ne résout rien. Donc d'un point de vue logique et rationnel, déjà, ça ne répond pas à la question. Donc on peut pas, pareil pour la question sociale. Imaginons que je sois un médecin et que je dise que finalement le sens de ma vie, c'est de soigner des gens. Oui, mais pourquoi soigner des gens? Tu n'as pas répondu à cette question. Et pourquoi l'humanité en elle-même aurait un sens finalement? Pourquoi ce serait mieux qu'il y ait une humanité plutôt que rien? On ne pourra pas répondre à cette question. Je veux dire, certains écologistes vous diront que il vaudrait mieux que l'humanité n'existe pas car elle est en train de détruire la planète et peut-être peut-être même le système solaire et plus que ça. D'un point de vue logique et en fait on ne pourra jamais dire quel est le sens du fait qu'il y ait une humanité plutôt que rien. Ça n'a pas de sens, de toute façon. Le fait que le monde existe, même c'est une question assez kabbaliste, pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien? Pourquoi est-ce que Dieu crée un monde? C'est des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. D'ailleurs, même Maïmonide, dans son livre Le Guide des Égarés, il dit qu'il n'y a pas de but à l'univers. Ça n'a pas de but. Il ne faut pas imaginer Dieu comme un humain avec des intentions, etc. Parce que Dieu, pour Maïmonide, c'est de l'intellect pur, il n'a pas d'intention, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment. Donc c'est complètement absurde d'imaginer qu'il y a un but à l'univers. L'être humain se donne des buts dans tout ce qu'il fait, mais l'univers lui-même n'a pas de but. Si l'univers n'existait pas, ça changerait quoi? Ça ne changerait rien. Donc finalement, il faut complètement renoncer à cette question-là, mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas occuper une fonction sociale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Mais en fait, on occupe cette fonction d'autant plus, avec d'autant plus, je crois, et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, je crois qu'un prof, il pense que le sens de sa vie, c'est d'être prof, etc., il va rentrer dans un rôle, finalement, qui va le rendre assez mauvais dans ce qu'il fait. Alors que, justement, le prof qui sait que c'est une décision libre qu'il est en train de faire et que sa vie ne se résume pas à son utilité sociale, eh ben, je crois qu'il va devenir prof de manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus drôle. C'est ce que ça s'appelle, finalement, c'est ça la fonction de l'humour. C'est-à-dire les gens qui se prennent au sérieux. Il y a cette idée chez Sartre, par exemple, que de combattre l'esprit de sérieux. Il termine un bouquin de 700 pages de métaphysique qui s'appelle « L'être et le néant » par une phrase qui est « combattre l'esprit de sérieux ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui pensent que le sens de leur vie est déterminé par une fonction sociale, c'est des gens qui sont très sérieux finalement et qui vont... Et ce sérieux-là les empêche de faire un peu ce pas de côté parfois. L'humour, c'est ça. L'humour, c'est avoir du décalage. C'est pouvoir faire un pas de côté et pouvoir se moquer un peu de soi-même et de se dire je vais arrêter de jouer au prof peut-être. Et je crois que le meilleur prof, c'est celui qui arrête de jouer au prof. Je crois que le meilleur père, c'est le père qui arrête de jouer au père. La meilleure maman, c'est celle qui arrête de jouer à la maman. Et malheureusement, on est tellement angoissé par la liberté qu'on ne fait que jouer des rôles très sérieux dans notre vie. On joue de manière très sérieuse le rôle du prof, on joue très sérieux, de manière très sérieuse le rôle du flic ou le rôle, voilà. Et en fait, on devrait au contraire combattre l'esprit de sérieux en faisant un pas de côté, en se disant, mais au final, je vais essayer d'être en décalage avec ma fonction sociale. Et c'est ça, je crois, qui nous rend la vie plus intéressante, plus palpitante.
Alors justement, là-dessus, Sartre dit « Point n'est nécessaire de fonction ou d'alibi, nous existons, point, l'existence précède l'essence. » C'est-à-dire, je suis vivante, j'existe, et mes qualités, mon savoir, etc., c'est subordonné. Cela nous donne l'illusion, ou peut-être la chance d'avoir la liberté du choix, d'engagement dans la vie, puisque j'existe, ça m'est donné, c'est objectif, on ne peut pas me le supprimer, sauf en me supprimant la vie, ça me donne la liberté de faire ou de ne pas faire.
Exact. Et c'est ça qui ça pose la question morale aussi, c'est-à-dire que comment savoir si on fait le bien ou le mal, hein? C'est cet étudiant qui vient voir Sartre pendant la guerre et qui lui dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'engager dans la résistance contre le nazisme ou est-ce que je dois rester auprès de ma mère malade? Choix cornélien s'il en est, et choix de Sophie on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et Sartre lui répond une réponse très intelligente, il lui dit: le fait d'être venu me voir, tu as déjà répondu d'une certaine manière à la question. Donc tu ne peux pas. Tu aimerais pouvoir te libérer d'avoir à choisir. Tu aimerais pouvoir que je te donne une réponse A ou B, oui ou non, ou ta maman ou la résistance. Tu aimerais que je te donne une réponse. Mais en fait, même si je te donnais une réponse, même si je jouais ton jeu et que finalement je finissais par te donner une réponse et te dire ce que tu dois faire, tu aurais encore choisi. Tu ne pourrais pas te débarrasser de ton choix puisque tu es venu voir Sartre, tu aurais pu voir un rabbin, tu aurais pu voir un curé, tu aurais pu voir un révolutionnaire, tu aurais pu être allé voir un résistant et il t'aurait donné une réponse. Donc le fait d'être venu me voir moi, c'est encore et toujours un choix. Hein, c'est comme les gens qui vont voir le rabbin parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Et donc, ils vont voir un certain rabbin. Okay, le rabbin peut tout donner des très bons conseils, mais en fait, ils ont déjà choisi, parce qu'ils ont choisi un rabbin orthodoxe ou un rabbin libéral. Ils ont choisi un rabbin révolutionnaire ou un rabbin plutôt conservateur. Ils ont choisi un homme ou plutôt une femme. Ils ont choisi... Donc, il y a toujours un choix. Même quand vous allez demander une réponse à un rabbin sur une question que vous vous posez, vous êtes encore en train de choisir. Même si vous vous soumettez à sa parole, vous avez encore choisi. Et vous avez choisi un rabbin, vous auriez pu choisir un curé ou un imam. Donc en fait, on ne peut pas se débarrasser d'avoir à choisir. Et c'est pour ça que l'existentialisme nous dit ça. C'est une philosophie qui consiste à assumer ce choix.
Alors, la conscience humaine serait-elle un algorithme, c'est-à-dire obtenu par une suite d'opérations mathématiques, d'équations, etc. En un mot, est-ce que nous sommes une machine? Nous ne sommes qu'une machine. Et corollaire de la question, pardon, qu'est-ce qui exprime mieux le sens et la signification de l'existence, les maths ou la philo?
C'est une bonne question. Ça fait référence au chapitre de mon livre où je parle effectivement de la question de la conscience artificielle. Est-ce qu'un jour, un algorithme pourra reproduire la conscience artificielle, alors même pas forcément la conscience humaine, hein. Mais en tout cas, c'est une question redoutable, parce que on sait aujourd'hui créer des intelligences, ChatGPT, etc., des intelligences artificielles absolument incroyables, qui commencent à nous dépasser dans presque tous les domaines. Hein. Par exemple, si je prends le domaine des échecs, AlphaZero écrase à plate couture le champion du monde Magnus Carlsen, il n'a aucune chance contre elle. Mais alors c'est vrai dans les échecs, mais ça devient vrai dans plein d'autres domaines. Mais par contre, on ne sait pas encore créer une conscience artificielle qui aurait un plaisir à battre Magnus Carlsen aux échecs, ou qui éprouverait de la souffrance à perdre, ou même, plus simplement, le plaisir et la souffrance. On ne sait pas aujourd'hui produire un algorithme qui pourrait ressentir la douleur que nous avons quand nous approchons notre main près du feu. Alors, on pourrait tout à fait créer un robot, ça, c'est tout à fait dans nos compétences. On peut créer un robot qui pourrait simuler la souffrance et le plaisir à la perfection. On pourrait créer un robot, comme dans la série Westworld, qui ressemblerait à un humain et qui pourrait simuler exactement comme nous le faisons. Par exemple, si sa main s'approchait d'un feu, eh ben, il la prendrait dans ses mains, il essayerait de se soigner, il pourrait sangloter, il pourrait grimacer de douleur. Tout ça, c'est facile à faire. Mais est-ce qu'on est capable de faire un robot qui serait capable de ressentir, c'est-à-dire d'avoir une vie intérieure, une subjectivité? Et ça, aujourd'hui, c'est un défi absolument incroyable parce que la science, donc là, je rebondis un peu sur la dernière question, mais la science a permis de résoudre, en tout cas, elle est en passe de résoudre certains grands mystères de l'univers, hein, l'apparition de la vie grâce à Darwin et la théorie de l'évolution, qui a été complété ensuite par la génétique avec Mendel, etc. L'origine de l'univers avec le Big Bang, voilà, on sait aujourd'hui, on peut même donner la date de la création, en tout cas de l'apparition de l'univers. Il nous reste pourtant un mystère incroyable, c'est le mystère de la conscience. Et donc, on est peut-être la génération où on est, en tout cas, on est proche de peut-être de résoudre ce problème, mais on l'a pas encore résolu. C'est-à-dire que on sait produire des algorithmes qui reproduisent l'intelligence humaine à la perfection et qui même la dépassent, mais on ne sait pas encore reproduire la conscience. Et il y a un scientifique qui disait, c'est "What I can create, I can't understand." Que je ne peux pas, créer, je ne peux pas le comprendre. Mmh. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de reproduire...
Oui, c'est vertigineux, ça. Oui, oui.
Voilà. Et ça, c'est vertigineux. Et alors, dans mon livre, effectivement, j'explore deux pistes. J'explore en tout cas la piste qu'on appelle matérialiste, c'est-à-dire la piste qui explique tout d'un point de vue scientifique à partir de la matière. Et je montre, par exemple, avec Daniel Dennett, que cette piste-là, elle pose quand même quelques questions, quelques problèmes, et c'est pour ça que je ne prétends pas résoudre cette question dans mon livre. Mmh. Il faut essayer de voir jusqu'à où la piste matérialiste nous amène, mmh, et vers quelles contradictions elle nous amène, finalement. Parce que la piste matérialiste, elle consiste à affirmer, avec Daniel Dennett, je ne dis pas que c'est la seule piste matérialiste, mais c'est aujourd'hui la piste la plus probable, elle consiste à affirmer que finalement, la conscience que nous avons de la souffrance, du plaisir, des émotions, etc., le cerveau n'est jamais rien d'autre qu'un algorithme, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de la subjectivité? Comment est-ce que se produit en nous cette subjectivité, ces émotions, cette souffrance, ce plaisir? Alors, en fait, c'est un raccourci que le cerveau utilise, mais c'est un peu illusoire, c'est un peu comme une illusion, mais c'est une sorte de raccourci qui nous permet de réagir de manière plus rapide. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique. Alors, c'est quand même une thèse extrêmement problématique parce qu'elle est extrêmement contre-intuitive. Mais donc, je reste avec une question à la fin. C'est-à-dire, bah voilà, la piste matérialiste nous amène jusque-là. Ensuite, c'est extrêmement contre-intuitif. Mais en même temps, elle a l'avantage d'être rationnelle.
Alors, Husserl, on ne va pas en parler longuement, mais simplement dire, mentionner, qu'il renouvelle profondément notre conception de la conscience. Et là, c'est aussi vertigineux. Je laisse donc les lecteurs revenir à votre livre. Juste vous rappeler que vous êtes star des réseaux sociaux sous le nom de Serial Thinker. Vous êtes écrivain, enseignant de philosophie, mais le premier Serial Thinker, c'était pas Socrate?
Oui, c'est vrai, exactement. C'est pour ça que j'ai repris ce terme, ce nom pour la chaîne, parce que j'avais envie de donner un nom un petit peu badass, comme on dit aujourd'hui, un nom un petit peu qui montre que la philosophie, finalement, ça n'est pas une activité de rat de bibliothèque, mais c'est un sport de combat qui va amener Socrate à être tellement subversif qu'il va finir par être condamné à mort à Athènes, par un tribunal athénien, par une démocratie d'ailleurs. qui va le condamner à mort pour avoir remis en cause les dieux de la cité. C'est-à-dire que Socrate, on est à une époque où tout le monde croit en Zeus, Poséidon, etc. Et puis Socrate, par sa pensée, il va titiller un petit peu toutes ses croyances. Il va les remettre en question. Et donc c'est toujours dangereux. Donc la philosophie est une activité dangereuse. C'est ça que je voulais montrer en montrant qu'il y a un lien entre serial thinker et serial killer. Voilà. Il y a quelque chose de dangereux dans la philosophie qui nous amène finalement parfois à penser contre nous-mêmes, qui nous amène à penser contre les normes, à ne pas être complice avec la normalité du monde. Socrate, c'est ne pas être complice avec le polythéisme. Plus tard, Maïmonide, c'est ne pas être complice avec une vision de la religion extrêmement dogmatique. Spinoza, c'est pareil, c'est ne pas être complice avec la vision religieuse que tout le monde avait à cette époque. Il va affirmer que Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire il va donner une vision très, très rationaliste de Dieu. Ensuite, on a Simone de Beauvoir qui, par la philosophie, va remettre en question les rôles dans lesquels la femme est enfermée à son époque. Et voilà, en montrant qu'on ne n'est pas femme, on le devient. Voilà. Donc la philosophie est toujours dangereuse au sens où elle remet en question les normes dans lesquelles on a grandi, les croyances dans lesquelles on a grandi.
Le Frankel, alors je retourne donc pour finaliser cette interview passionnante autour de votre livre qui paraît aux éditions Albin Michel, « Ma vie a-t-elle un sens ?» et autres questions philosophiques du quotidien. Il y a des références bien sûr aux figures classiques de la pensée, de la philosophie que nous connaissons, Aristote, Nietzsche, Marx, Socrate, Platon, mais aussi références à la culture pop. Et ça, c'est jouissif pour les jeunes qui lisent et qui ont le droit, pour expliquer un sentiment de philosophie, pour exprimer, illustrer un raisonnement philosophique, ils ont le droit de convoquer la culture pop qui est familière pour eux.
C'est vrai, alors je leur dis souvent que dans une dissertation de philosophie, il vaut mieux quand même avoir des références classiques, parce qu'on ne sait pas sur quel correcteur on va tomber, et tous les correcteurs n'ont pas forcément la même vision que moi. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à leur donner ces références-là, parce que ça leur montre effectivement qu'il y a de la philosophie dans les séries télé qu'ils regardent, il y a de la philosophie dans les musiques qu'ils écoutent, que ce soit du rap ou du rock ou autre chose. Et il ne faut absolument pas se priver de la richesse de cette culture-là, qui est loin d'être une sous-culture, comme certains l'affirment parfois. Alors, ça ne veut pas dire que tout est bon, mais pareil, hein, dans les classiques non plus, tout n'est pas forcément bon.
Alors, c'est un livre vraiment passionnant, votre livre, donc, qui paraît aux éditions Albin Michel. Je voulais vous dire que c'était vraiment une lecture intéressante, passionnante, où l'on apprend beaucoup. Et c'est très facile à sauter d'un point à l'autre parce que on ouvre le livre à n'importe quel moment. Il y a une pensée fluide, miscible. On comprend et c'est un livre passionnant. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup Solange, ça me fait très plaisir et merci pour cette belle interview.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. We'll be right back.